du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique pour le deuxième dimanche de Pâques. C'est donc le soir, ce premier jour de la semaine, les portes ayant été verrouillées là où se trouvent les disciples par crainte des Juifs. Jésus vient et se tenant au milieu d'eux, leur dit
« Paix à vous ».
Cela dit, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont alors remplis de joie à la vue du Seigneur. Jésus leur dit donc de nouveau
« Paix à vous ». De par le Père qui m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Cela dit, il souffle sur eux et leur dit
« Recevez l'Esprit de sainteté. Ceux de qui vous remettez les péchés, ils sont remis. Ceux de qui vous les retenez, ils sont retenus. »
Thomas, l'un des 12, appelé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus est venu. Les autres disciples lui disent
« Nous avons vu le Seigneur. »
Mais celui-ci leur dit
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et ne place pas dans mon doigt dans la marque des clous et ne place pas ma main dans son côté, je ne croirai sûrement pas. »
8 jours après, ses disciples sont de nouveau à l'intérieur et Thomas est avec eux. Jésus vient. Les portes ayant été verrouillées et se tenant au milieu, il dit
« Paix à vous. »
Puis il dit à Thomas
« Porte ton doigt ici et vois mes mains. « Porte ta main et place-la dans mon côté. Cesse d'être incroyant, mais aie confiance. »
Thomas répond et lui dit
« Mon Seigneur et mon Dieu. »
Jésus lui dit
« Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. »
En présence de ses disciples, Jésus a fait encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez vie en son nom.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Voici un des textes clés de l'Évangile. Un texte fondamental au sens le plus fort de ce terme, un texte qui dit le fondement de la foi chrétienne, ce sur quoi les chrétiens appuient leur foi depuis 2000 ans.
Bien comme à notre habitude, citons le texte. Nous sommes le soir du grand jour de l'histoire humaine, le jour marqué des premières manifestations de Jésus ressuscité. Ce jour, le premier de la semaine juive, va devenir ce que nous appelons le jour du Seigneur, Dies Dominicus en latin, et qui a donné par contraction dimanche. Le matin de ce jour, Jésus est apparu à Marie de Magdala, à qui il a confié le message. « Va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. » Et le soir, alors que les disciples sont réunis, Jésus va venir vers eux pour leur donner mission. Eh bien, notre texte comprend 2 épisodes, situés chacun le dimanche, mais à 8 jours d'intervalle. Le premier épisode concerne la mission qui est confiée aux disciples. Le second nous décrit les conditions de la foi et ces conditions telles qu'elles seront tout au long de l'histoire. Alors, le premier épisode, la mission confiée aux disciples.
Il leur dit « Paix à vous ».
Dans la langue juive, « shalom »,« paix à vous », c'est l'équivalent de notre « bonjour ». Les Juifs se saluent ainsi. Et on pourrait s'étonner que cet homme qui revient de la mort ne trouve rien d'autre à dire qu'un banal « bonjour ». De quelqu'un qui est aux portes de la mort, nous attendons des paroles fortes, un testament. Alors, de celui qui revient de la mort, combien plus pourrait-on attendre ? Mais ce souhait n'est pas dit avec banalité. Non seulement il va être répété, mais il va être expliqué par un geste qui est peu habituel, une insufflation. la plupart de nos traductions disent « il souffla sur eux ». La version latine de la Bible, qu'on appelle la Vulgate, traduit « in soufflavit », qui veut dire littéralement « il insuffla ». Et je n'ai trouvé que la version française de Darby pour traduire « il souffla en eux ». Le verbe grec employé ici évoque le geste de Dieu lors de la création.
Il insouffla dans ses narines l'haleine de vie et l'humain devint un être vivant.
Le verbe va être repris dans le livre de la sagesse lorsque l'on parle de celui qui se tourne vers des dieux qui sont des idoles.
Il ignore celui qui l'a façonné, qui a soufflé en lui un souffle de vie et insufflé un esprit qui fait vivre.
On retrouvera enfin ce verbe dans le prophète Ézéchiel, où il va décrire la promesse de Dieu à son peuple Israël, alors qu'Israël est en exil, loin de sa terre, sans vie, un peu comparable à un immense amas d'ossements desséchés.
« Je prononçai l'oracle de Dieu, souffle, souffle dans ces morts et ils vivront. Le souffle entra en eux et ils vécurent. »
Le souffle entra en eux. On a peut-être une hésitation à voir Jésus insuffler son souffle dans ses disciples. Il est en effet peu ordinaire d'insuffler son propre souffle dans la bouche de quelqu'un. Et pourtant, nous le faisons pour redonner le souffle à ceux qui viennent de le perdre, ce que nous appelons la respiration artificielle, le bouche à bouche. Cette insufflation peut ainsi redonner le souffle à celui ou celle qui vient de le perdre. Elle le fait respirer à nouveau, elle le fait revivre. Eh bien ici, de quelle recréation peut-il s'agir? Jésus l'explicite. Recevez l'esprit de sainteté, ceux de qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Eh bien oui, la remise des péchés, nous devons la voir comme une recréation. Le vocabulaire « remettre, retenir » évoque un langage juridique, mais il est aussi évocateur de ce que l'on appelle dans la Bible l'an de grâce. L'an de grâce qui est cette année jubilaire que le Lévitique prévoit tous les 50 ans et où Dieu et ses fidèles effacent toute dette sans aucune condition. Au début du récit de Luc, Jésus définissait sa mission comme une proclamation de l'an de grâce. Et la mission qui va être confiée désormais aux disciples, c'est aussi proclamation de la grâce, c'est-à-dire transmettre le souffle spirituel de Jésus, qui est un souffle de pardon, d'amour. « Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez », avait dit Dieu par le prophète Ézéchiel. Eh bien, en ce jour unique de l'histoire humaine, voilà qu'un être de notre race réalise cette promesse. Parce qu'il est en communion parfaite avec le Père, parce qu'il a vaincu le mal en lui-même, parce qu'il a sauvegardé l'amour de Dieu dans son cœur, et parce qu'il est vivant toujours de la vie divine, Jésus est porteur d'un souffle de vie et d'amour qui est divin. Et par cet amour qu'il porte en son cœur, il peut donc recréer celui qui l'accueille comme son compagnon de vie. Il peut pardonner. Pardonner parce que le pardon n'est pas seulement l'oubli de la faute ou son excuse. Le pardon, c'est le don d'un souffle de vie et d'amour qui peut véritablement guérir le cœur de celui qui a fait mal. Le pardon est le don parfait, le don achevé de l'amour. Dans la parabole de l'enfant prodigue, c'est en effet l'amour du Père qui fait revivre son Fils. Il fallait festoyer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est vivant. Et celui qui accueille en lui ce souffle de vie va devenir à son tour capable de le transmettre à son prochain. Il ne peut, d'ailleurs, accueillir en vérité le souffle divin de l'amour que s'il se rend disponible à le communiquer à celui ou celle qui se trouve sur son chemin, qui se trouve être son prochain. « Pardonne-nous comme nous pardonnons », dit la prière de Jésus, et citons le Talmud.
« Celui qui fait preuve de compassion à l'égard de son prochain et pardonne le mal qu'on lui fait, le ciel est miséricordieux pour lui. De par le Père qui m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
En latin, le mot « missio » vient du verbe « mittere » qui signifie « envoyer » et cela a donné « missionnaire ». Le mot grec « apostolos » qui signifie lui aussi « envoyé » a été tout simplement francisé en « apôtre ». Eh bien, être envoyé, recevoir mission, c'est donc la même réalité. Faire vivre l'être humain par le don et le pardon de l'amour divin, voilà la mission qui est confiée par le Père à Jésus.
Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.
L'envoi par le Père, la mission qu'il confie à Jésus, n'a pas d'autre but en effet que de sauver chaque être humain et de le sauver par l'amour. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Lorsqu'on appauvrit en soi le souffle de l'amour, on perd sa vie. Sauver son âme, c'est donc lui redonner la force de l'amour. Oh oui, remarquons-le, le Fils de Dieu n'est pas venu d'abord pour nous expliquer des vérités philosophiques sur Dieu, mais pour transmettre la force du pardon qui refait chaque être humain comme quelqu'un d'aimant et de miséricordieux. Voici comment la lettre de Tite traduit cette mission de salut.
Lorsque se sont manifestées la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains, il nous a sauvés. Non en vertu d'actions droites que nous aurions accomplies nous-mêmes, mais en vertu de sa miséricorde, par un bain de renaissance et de renouvellement que produit l'Esprit Saint.
Dire « paix à toi » ne doit donc pas être seulement un banal souhait, mais devenir un don. Que la paix de Dieu vienne réellement en toi. Et cela parce que je te donnerai part à l'Esprit de Dieu qui demeure en moi.
Un Fils nous a été donné. On proclame son nom, Prince de la paix.
Ce texte du prophète Isaïe décrivait la mission première du roi Messie, apporter la paix au peuple de Dieu. Le mot français « paix » viendrait peut-être du mot « pâle » qui a donné « pieux ». Cette étymologie n'évoque peut-être que l'absence de chicane. On fiche la paix afin que chacun respecte les limites du territoire de l'autre, son territoire qui sera délimité par des pâles. Mais le mot juif « shalom » est bien plus beau, car il décrit la concorde, la cohésion dans l'harmonie. Il évoque ainsi la réconciliation. C'est parce qu'il est toute miséricorde que Dieu lui-même est l'auteur de la paix. Et c'est ainsi qu'il s'est révélé lui-même à Moïse.
Le Seigneur passa devant lui et proclama « le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle jusqu'à des milliers de générations, qui supporte la faute, la rébellion et le péché. »
C'est à cause de cette toute-puissante miséricorde de Dieu que la fête juive par excellence est celle que l'on appelle le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Oh, toutes les fêtes juives pourraient bien disparaître, Kippour demeurerait, dit-on. En ce jour, la liturgie juive fait lire le livre de Jonas. Eh bien, l'on sait que le prophète Jonas a été envoyé par Dieu prêcher la conversion aux païens de Ninive à cause précisément de la miséricorde de Dieu qui est pour tous les humains et pas seulement pour les juifs. Voici comment Jean Moutapin, dans le livre « Dieu et la révolution du dialogue », décrit cette mission de Jonas.
De même que le grand prêtre à l'époque du temple était littéralement avalé dans le Saint des Saints, le jour de Kippour, de même Jonas a été avalé par un gros poisson. Durant 3 jours et 3 nuits, le prophète demeure là, dans le ventre de l'animal marin, comme pour une gestation dans une matrice féminine. Il prépare dans cette matrice sa renaissance, la reconversion totale de son être. Et cette révolution intérieure consistera à comprendre, à assumer, à porter la miséricorde divine envers tous, les pécheurs comme les justes, les païens comme les israélites. Au sein de cette matrice, Rehem, en hébreu, il pénètre l'infinie puissance de miséricorde, Ra-A-Mim, mot de même racine que Rehem, attribut suprême de ce Dieu dont il n'avait perçu jusque-là que la redoutable justice.
Eh bien, Jésus, lui aussi, a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Son rejet par les puissants de son peuple est le symbole du rejet de l'amour, une descente aux profondeurs infernales du mal. Mais Jésus va sortir vainqueur de ce combat avec le mal. Il va sortir vainqueur par sa fidélité à l'amour. On retrouve là l'image de l'enfantement, la croix et la descente dans les profondeurs du mal est comme une matrice qui enfante un Christ éternellement vivant de la miséricorde divine. Il revient ainsi, porteur de la compassion divine pour tous et pour toujours. En lui, il n'y a et il n'y aura jamais trace de péché. Il pourra être donc le médiateur de la communion entre nous et le Père, médiateur d'une alliance qui est éternelle, parce qu'il est vivant, parce qu'il est immortel, d'une alliance qu'il sera toujours possible à chacun et chacune des fils et filles de Dieu de renouveler lorsque par la faute il l'aura rompu ou détérioré. Jésus accomplit en son être la promesse divine qui était décrite en Ézéchiel.
Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. Je mettrai en vous mon propre esprit.
Voilà ce qu'est le fruit de la croix. Parce qu'il a vaincu le mal par l'amour, parce qu'il est vivant pour toujours, Jésus est maintenant celui qui peut sauver celui qui s'unit à lui. Il s'offre comme le compagnon porteur de l'amour qui vient de Dieu. Il s'offre comme l'ami qui peut faire vivre de la vie véritable. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà la mission que le ressuscité va maintenant transmettre aux siens, au nom de son Père. Par cette mission, la communauté des disciples devient comme le prolongement de Jésus lui-même.
Qui accueille celui à qui je donnerai mission, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a donné mission.
Ce que Jésus a été dans son passage sur terre, il appartient maintenant à ses disciples de l'être. La mission est plus qu'une tâche. Elle concerne l'être même des disciples. Ils seront d'autres Christ, des chrétiens. Dans sa lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul parlera ainsi des chrétiens. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Jésus, lui, avait pris l'image de la vigne.
Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Lors du dernier repas, Jésus avait déjà dit le lien de continuité entre sa mission et celle de ses disciples. Comme tu m'as donné mission dans le monde, je leur donne mission dans le monde, priait-il. Cette mission ne se limitera pas aux frontières de la communauté des disciples. Cette mission est pour le monde. Le chrétien est porteur de l'amour de Dieu pour tout être humain dont il doit se faire le prochain, comme le dit si bien la parabole du bon samaritain.
Lequel s'est montré le prochain de l'homme qui est tombé aux mains des bandits ? C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui.
La bonté que Jésus donne à ses disciples de vivre, c'est elle qui leur demande de partager avec le prochain qui a besoin. Besoin de pain, besoin de soins et de travail, mais aussi besoin de dignité, d'amitié, d'espérance et de pardon. Alors notre deuxième épisode de ce récit traite de la condition de la foi après Pâques et pour le reste de l'histoire.
Jésus vient. Il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont alors remplis de joie à la vue du Seigneur.
Rappelons-nous le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, un repas marqué très fortement par les propos qui concernent son départ vers le Père. Ce que Jésus leur a promis alors se réalise maintenant.
« Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens à vous. »
Au-delà de la mort terrestre, le départ vers le Père ne signifie donc nullement un abandon. Bien au contraire, une fois monté vers le Père, Jésus va se trouver en communion avec ses disciples, une communion encore plus parfaite que celle que Jésus et les disciples ont vécue jusqu'alors.
« Je vous ai dit que je m'en vais et que je viens à vous. Si quelqu'un garde et vit ma parole, le Père et moi nous viendrons à lui. » Et nous établirons chez lui notre demeure.
Cette présence de Jésus sera une communion qui va se situer au plan le plus profond de l'être, ce lieu intime que la Bible appelle le cœur, qui est le lieu de l'intelligence et de la volonté, où se décident les choix qui font vivre à la manière de Dieu. Oh, l'éducation est un long apprentissage de manière d'être et d'agir. Nous avons appris à parler, à manger, à marcher, et ces apprentissages se sont imprimés dans notre mémoire. Jésus, lui, a longuement éduqué ses disciples, en leur communiquant les manières d'être qui sont celles du Père divin. Ce que j'ai appris du Père, je vous l'ai fait connaître. Il a transmis sa connaissance du Père, et cela autant par ses faits et ses gestes que par son enseignement. Un enseignement qu'il leur a transmis oralement, en leçons rythmées, qui sont imprimés dans la mémoire pour être gardés. Si quelqu'un garde et vit ma parole, mais on ne garde la parole de Dieu en soi, effectivement, qu'en la rendant vivante, et c'est l'Esprit de Jésus ressuscité qui va donner la force de vivre ce que la mémoire a gardé.
Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera faire mémoire de tout ce que je vous ai dit.
Pour voir Jésus vivant, il faudra vivre comme lui. Le disciple doit donc garder dans sa mémoire les paroles et les gestes de Jésus, et avec l'Esprit du ressuscité, il doit les faire revivre en sa propre vie. En agissant comme Jésus, par lui, avec lui, le disciple vit au sens fort de ce mot. Cette vie est déjà une vie d'éternité, car elle est une vie d'amour que la mort physique ne pourra détruire, comme le dira d'ailleurs la première lettre de Jean.
Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Qui n'aime pas demeure dans la mort.
Pour voir Jésus ressuscité de la mort, pour le voir vivant au-delà de la croix, il faut donc être sur la même longueur d'onde de vie que lui, cette longueur d'onde qui est celle de l'amour.
Le monde ne me voit plus, mais vous, vous me verrez, mais vous, vous verrez que moi je vis, et vous aussi, vous vivrez.
Cette communion intime qui unit à Dieu et à Jésus. Voilà ce qui met dans le cœur des disciples la joie pleine qui a été promise. « Je vous verrai et votre cœur se réjouira. » C'est là la source de la joie du chrétien, comme le décrit si bien l'apôtre Paul.
« Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. »
Cet apprentissage de l'amour véritable se fera pour le disciple de la même manière que pour son maître.
« C'est à ceci que désormais nous connaissons l'amour. » Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.
La croix, parce qu'elle est justement l'ultime geste de l'amour, conduit à la vie éternelle. Cette vie qui trouve son souffle dans le souffle de l'amour divin. C'est de cet amour divin puisé dans le cœur de Jésus de Nazareth que ses disciples seront désormais les témoins dans la mesure où ils le vivront eux-mêmes en vivant le pardon.
Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru.
L'absence de Thomas lors de la manifestation de Jésus va servir à donner un enseignement. Oh, certes, Thomas, comme les autres disciples, est appelé à voir Jésus vivant, ressuscité à la vie. Et il est appelé à le faire en aimant son prochain, en vivant l'amour jusqu'au pardon. Chaque fois que vous aimez votre frère d'amour gratuit, c'est moi que vous aimez, a dit Jésus dans la parabole du jugement dernier. Mais la vision du ressuscité dont les disciples ont bénéficié, va attester que le Jésus qu'ils rencontreront désormais dans le prochain est bien le Jésus de Nazareth lui-même.
Il leur montre ses mains et son côté. Voyant le Seigneur, les disciples sont alors remplis de joie.
La joie des disciples est associée à la vue des mains qui portent la marque des clous, à la vue du côté qui a été percé par la lance. Le ressuscité est bien le même que Jésus de Nazareth, le crucifié. Son message est donc le vrai chemin vers la vie immortelle. Le doute de Thomas nous permet de mieux comprendre pourquoi Jésus se fait voir. Cette vision que les disciples ont eue n'est pas d'abord un privilège, c'est une responsabilité, une mission. Oui, pour la suite des temps, ils seront les témoins que Jésus de Nazareth est devenu vivant, immortel. Dès lors, et tout au long de l'histoire, le Jésus qui sera servi et aimé dans le prochain est bien le même que celui qui a livré sa vie sur la croix pour attester que c'est l'amour véritable qui mène à l'immortalité. Il est un don de soi fait de miséricorde et de pardon.
Mais alors, tous ceux qui n'auront pas vu le ressuscité, comment pourraient-ils croire que le ressuscité est bien le crucifié ?
Oui, comment seront-ils assurés que le Christ immortel, qu'ils rejoignent dans la prière et dans le prochain, est bien le même que ce prophète de Nazareth en qui ils ont cru ? Parce que seul, il a pu dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Eh bien, l'élection de Matthias en remplacement de Judas nous donne la réponse.
Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à notre tête. À commencer par le baptême de Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection.
Aux disciples qui n'auront pas connu Jésus lors de sa vie terrestre, il leur faudra croire sur le témoignage de ceux qui auront eu la responsabilité de vivre avec lui. La première lettre de Jean traduit bien cette responsabilité.
Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché de la parole de vie, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous.
L'épisode de l'apôtre Thomas qui vient clore le récit évangélique de Jean vient donc décrire le mode de relation qui sera désormais celui de Jésus avec ses disciples tout au long de l'histoire. Jésus, même s'il est vivant, demeure invisible à nos yeux, mais cela ne doit pas venir altérer la joie du disciple. Cette joie naîtra dans le cœur du disciple chaque fois qu'il aura expérimenté la présence de Jésus parce qu'il aura aimé comme lui, généreusement et donc avec lui. Jésus lui fera expérimenter que l'égoïsme referme sur soi et conduit à la tristesse et au doute, alors qu'aimer son prochain conduit à Dieu et à la joie. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous pouvez également vous abonner soit au feuillet, soit aux cassettes.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.
Thank you.